Samedi Gourmet, une émission de Roger Huet.
Bonjour mesdames et messieurs. Il y a en Bourgogne des maisons qui brillent avec un éclat particulier dans le firmament vinicole. Et une de celles-là, c'est la maison Chanson Père et Fils, dont je reçois à l'instant son célèbre œnologue. Bonjour Jean-Pierre Confuron.
Bonjour à tous les auditeurs. Je vais vous présenter rapidement la maison Chanson. Cette maison a été créée en 1750 par un monsieur Simon Véry. Ce dernier, n'ayant pas de descendants, a légué sa maison à son comptable, tout simplement. Et au fur et à mesure des successions, jusqu'en 99, il y a eu des Marion à la tête de la maison Chanson.
Ah, et pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Chanson ?
Chanson était le nom du comptable d'origine et il a eu des filles qui se sont mariées avec des Marion.
Ah, voilà.
Donc ça a changé très rapidement. En 1999, la société Chanson était rachetée par la société Jacques Bollinger. Donc les fameuses champagnes.
Oui.
Voilà. Donc nous faisons partie aujourd'hui de la holding Jacques Bollinger.
La maison Chanson Père et Fils possède une bonne douzaine de propriétés dans les meilleurs terroirs de la Bourgogne. Parfois très petites d'ailleurs. C'est quand même une propriété impressionnante en Bourgogne et par sa surface, une fois toutes les parcelles additionnées et par les incroyables appellations qu'elle couvre.
Oui, tout à fait. Alors, notre cœur historique se situe dans la côte de Beaune, évidemment, puisque le siège est à Beaune. Et à l'époque, les gens travaillaient localement. Donc, nous sommes un des leaders de l'appellation Beaune Premier Cru, puisque nous avons 25 hectares sur 10 terroirs différents. Ensuite, nous avons 4 hectares et demi sur Savigny-les-Beaune, en blanc et en rouge. Savigny-Dominaude, Savigny-au-Marconnais en blanc. Essentiellement également sur la commune de Pernan-Vergelès, où nous avons 7 hectares et demi en rouge et en blanc, avec les Caradeux en blanc, les rouges en Pernan Premier Cru, les Vergelès, rouge. Et puis une petite butte calcaire qui couvre le terroir de Corton-Vergennes. Donc c'est un grand cru. Et donc nous sommes un des dépositaires de ce grand cru en Bourgogne, qui représente seulement, et là vous l'avez dit, c'est des tailles ridicules, seulement 2/3 d'hectare. Voilà.
Mais c'est la Bourgogne.
Mais c'est la Bourgogne.
Ce sont des terres tellement précieuses que...
C'est un patchwork de terroirs. Oui. Et à 5 mètres près, nos terroirs changent de nom parce que ce sont nos histoires, également la création de nos microclimats au cours des 2000 ans écoulés et où l'homme a fait la différence par la dégustation tout simplement et non pas la géologie moderne.
Vous êtes l'artisan de la qualité des vins de la maison Chanson aujourd'hui. Car vous avez pratiquement tout réorganisé. Et vous aviez déjà une expérience de premier ordre.
Oui, en effet, je suis issu d'une famille de viticulteurs en Côte de Nuit, où j'ai mon propre domaine d'ailleurs, le domaine Confuron Côté Tido à Vosne-Romanée. Et donc, par là même, j'ai été choisi par la société Jacques Bollinger pour le rachat de Chanson et l'expertise de son foncier. Ensuite, dès 2002, ils m'ont confié la direction technique de leur maison, à savoir le vignoble et la partie vinification, achat de raisins, puisque ça représente maintenant une grande proportion de nos approvisionnements. Le domaine Chanson, 20% de nos appros, et le reste vient de contrats que l'on passe auprès de viticulteurs de toute la Grande Bourgogne viticole, c'est-à-dire du Mâconnais jusqu'à Chablis.
Combien de types de vins proposez-vous aux consommateurs ?
Alors, précisément, nous avons 112 références au tarif par millésime. Personnellement, j'en vinifie 72 à la maison Chanson. Il faut savoir qu'on vinifie globalement 95% de nos approvisionnements. Le reste étant des grands crus que nous ne trouvons pas, ou en rouge, où il est très difficile de vinifier, par exemple, une pièce d'un grand cru. Et techniquement, ça ne serait pas qualitatif.
Quelle est l'importance de votre marché d'exportation et quelle est la part que représente le Québec ?
Pour qu'une maison soit forte à l'export, il faut qu'elle soit très forte en termes d'image et de positionnement en France. Donc le marché français représente 45% actuellement de nos ventes, l'export 55%. Et sur le Québec, c'est pour ça que je suis là, nous sommes très contents, nous avons des progressions et ce marché représente 2% de notre chiffre d'affaires de l'export.
Vous nous avez apporté 3 vins à déguster, en blanc, le Viré Clessé 2010 et deux rouges, le Bourgogne Pinot Noir 2010 et une merveille qu'est le bon champignon premier cru 2009. Est-ce qu'ils sont tous les trois disponibles à la Société des alcools du Québec?
Oui, tout à fait. Vous pouvez les trouver dans les magasins.
Nous allons commencer par lequel?
Par le blanc.
Très bien.
Il s'agit d'un Viret Clessé 2010, donc qui est issu du Mâconnais, et le cépage, bien évidemment, est le Chardonnay. Cette appellation a été créée en 1996, et la Maison Chanson a été la première maison à s'intéresser à ce terroir. Et donc aujourd'hui, la Maison Chanson représente la deuxième maison en termes de production sur cette appellation. Nous sommes un des leaders de Viret Clessé aujourd'hui, et nous vinifions la totalité de nos approvisionnements.
Belle robe, vraiment, magnifique. Alors, elle est assez dorée quand même.
Voilà, ce sont des vins donc, qui sont vinifiés en cuve inox pour préserver l'originalité des terroirs du Mâconnais, à savoir la commune de Clessé où nous retrouverons dans son terroir des coquilles d'huîtres fossilisées va communiquer un côté très iodé et la commune de Viret qui se trouve un peu plus au nord sur un terroir un peu plus chaud va apporter beaucoup de notes exotiques, également de notes de fruits jaunes. Et donc le mixte des deux va donner un vin très subtil que moi je propose aux consommateurs essentiellement sur des vins au verre, à l'apéritif, et qui va très très bien se marier après avec des plats de poisson que vous avez dans votre merveilleux pays.
Il est délicieux. Pas agressant, très bien fondu. L'acidité n'est pas... Elle est présente, mais elle est très caressante. Magnifique.
Oui, on essaie de faire des vins assez élaborés en termes d'équilibre, parce que c'est par là qu'on est jugé par le consommateur. Et ce vin est surtout destiné, pour moi, à la jeunesse, pour faire découvrir les grands blancs de Bourgogne. Et c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc le deuxième vin, il s'agit d'un Bourgogne Pinot Noir, de la Maison Chanson. Le millésime est également 2010. Il s'agit en réalité de nos deux entrées de gamme, à la fois Viret Clessé en blanc et Bourgogne Pinot Noir en rouge.
Très belle robe également, très sympathique, un très beau rubis.
Au nez, on développe assez rapidement des notes de fruits rouges acidulés, très 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 frais. Et en bouche, on a une ampleur assez généreuse, très bien équilibrée également, avec des tanins très très fins. Ce qui fait que c'est plutôt un vin, ce que j'appelle de copain, sans prétention, qui permet de découvrir également vos plats tels que des rillettes d'oie ou de la charcuterie.
Oui, ça doit être merveilleux avec de la charcuterie.
Voilà, c'est exactement le positionnement. Après, on peut manger un petit fromage, une pâte molle, ça sera parfait.
Absolument. Et il est bon, il a quand même une certaine longueur, même si c'est un vin de copain.
Oui, on essaie de se positionner assez haut par nos assemblages, donc on a une recherche qualitative importante.
Nous allons donc terminer avec le...
Donc là, on est sur le Beaune premier cru Champimont du domaine Chanson, mais en millésime 2009.
Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Champimont?
Il semblerait que l'origine vienne du champ de Monsieur Pimont. Tout simplement. Nos terroirs font toujours ou très souvent référence à quelqu'un ou à quelque chose, à un endroit où on a donné un nom. Donc là, on est sur des arômes beaucoup plus subtils, plus floraux, parce que ça vient du sol, ce terroir est un peu plus sablonneux. Et donc, on va découvrir des notes un peu plus de violette, de parme, très odorante, ou de pivoine dans un premier temps, qui vont évoluer sur des notes plutôt de chocolat mentholé.
Mais c'est un vin vraiment complexe.
Oui, et surtout en bouche, on a une attaque très onctueuse, avec des notes un petit peu de taffetas, de velours, qui vont terminer sur des tanins très très fins, très soyeux. Donc c'est un vin qui peut paraître tout de suite consommable. Personnellement, je préconiserais de le garder quelques temps en cave pour qu'on développe un peu plus le bouquet de ce vin.
Il est déjà très gourmand.
Il est très très gourmand et pour accompagner tous vos plats de venaison.
Oui.
Là, ça sera un plat de...
Pour un grand repas. Vraiment.
Pour un grand repas, voilà.
Et combien de temps on peut le garder?
Alors personnellement, moi je préconiserais de commencer de l'ouvrir dans 5 ans, mais il pourra tenir largement 10-15 ans.
Quelle merveille! La couleur d'ailleurs, beaucoup plus soutenue. Comment vous faites pour obtenir cette couleur avec un pinot? Parce qu'en général, les pinots ont tendance à avoir des couleurs plutôt légères.
Oui, alors nous sommes partisans des hautes maturités phénoliques, c'est-à-dire qu'on laisse mûrir nos raisins. On a un suivi très 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 précis dans notre parcellaire. Et donc, on ne cueille les raisins que quand ils sont mûrs et après que je les ai goûtés. Et en termes de vinification, nous avons une vinification un peu plus spécifique en Bourgogne qui s'appelle la vendange entière. Donc, les raisins sont mis en cuve, non foulés, non égrappés, pour préserver le potentiel aromatique et également la couleur des vins, qui ne s'oxyderont pas.
Oui, mais en vérité, c'est un vin. Il est beau, il est bon, il est aromatique, il a tout. C'est vraiment une merveille.
En tant qu'œnologue, voilà, mon but, c'est de donner du plaisir aux consommateurs, tout simplement.
Ah oui, mais vous réussissez. Celui-là, c'est quelque chose.
Ben, merci bien.
Nous avons placé vos liens et ceux de votre agent authentique, vin et spiritueux, sur le blog de notre émission. Merci d'être passé à Samedi Gourmet, Jean-Pierre Confuron.
Merci à vous.
Aujourd'hui, nous recevons à Samedi Gourmet une très grande chocolatière. Bonjour Chloé Gervais-Frédette.
Bonjour Roger.
Chloé, vous êtes célèbre à Montréal. Les chocolats de Chloé sur la rue du Lutte sont l'endroit où les vrais amateurs de chocolat se rencontrent et cela ne date pas d'hier.
Cette année, ça fera 10 ans que la chocolaterie a ouvert. Encore des gens qui nous découvrent aussi pour la première fois. Souvent à l'occasion des fêtes de Noël ou de Pâques.
Le secret de votre succès et de l'attachement que vous témoignent les Montréalais, ceux qui vous connaissent y reviennent toujours, réside sans doute dans le fait que vous travaillez artisanalement avec des produits de la meilleure qualité.
Oui, ça pour moi, c'est quelque chose avec lequel je ne ferai jamais de compromis. La qualité des ingrédients de base, je pense que c'est essentiel. Alors, pour ça, nous, on utilise un chocolat qui s'appelle Valrhona.
Il est quand même connu pour sa grande qualité de chocolat.
Quand on part avec un ingrédient de base qui est déjà fantastique, ben, il s'agit de respecter le produit, mais on n'a pas à le transformer trop non plus.
Il y a une telle variété de petites délices chez vous. Des guimauves, des tablettes, des petites pièces décorées, des grosses boîtes, des petites boîtes et même des chocolats à boire.
Oui, on vend en fait un mélange qui est à base de pâte de cacao, donc du chocolat qui est non sucré, dans lequel nous on rajoute un peu de sucre de canne biologique et puis on en fait 2 variétés. Dans une variété, on met un peu de vanille fraîche et puis dans l'autre variété, on met quelques épices. Alors les gens après à la maison peuvent se faire des chocolats chauds, mais de bonne qualité avec pas trop de sucre.
Chloé, vous nous avez apporté quelques chocolats à déguster. Ils sont très beaux, ils sont magnifiques.
Merci. Alors, ce que je vous ai apporté aujourd'hui, c'est un petit échantillon de quelques tablettes qu'on vend, en fait, ce qu'on appellera les tablettes. C'est une plaquette de chocolat sur laquelle, ici, dans le cas de la tablette aux amandes grillées, alors on a juste déposé des amandes grillées entières. On a une autre tablette qui est assez populaire à base de chocolat au lait, et dans laquelle on rajoute un peu de fleur de sel. Alors, dans cette tablette-là, on croque le chocolat, puis on a les petits grains de sel qui viennent. Alors, le mélange de sel, de sucre, c'est assez intéressant. On en a aussi une autre au chocolat noir avec des écorces d'orange confites. Et puis, la tablette de chocolat blond, qui est un chocolat que Valrhona a mis en marché il n'y a pas très longtemps.
Une invention à eux, d'ailleurs.
Voilà, et qui, en fait, le chocolat blanc, c'est à la base... les ingrédients du chocolat blanc, on utilise les mêmes ingrédients, sauf que le lait du chocolat est caramélisé. Alors, c'est ce qui lui donne et sa couleur blonde et son petit goût biscuité.
Et ce chocolat-là, il rappelle un petit peu le dulce de leche.
Oui, absolument. Il s'appelle Dulce, D-U-L-C-E-Y, je crois, en référence.
En référence à ça.
À la confiture de lait.
Et vous avez des petites pièces.
Ensuite,
tellement
c'est ça.
Jolies.
Ce qu'on appelle ce qu'on appelle des bonbons de chocolat ou nos ganaches. C'est des petits chocolats carrés. C'est un mélange de crème, de chocolat, un peu de beurre. Chez nous, les ganaches, on les aromatise, mais toujours avec des produits frais. Alors, par exemple, j'ai ici une ganache au basilic. C'est, en fait, c'est pas de l'essence de basilic qui est ajoutée. C'est des feuilles de basilic qui ont trempé dans la crème pendant 2 jours. Et ensuite, la crème, elle prend tout le goût du basilic. Donc, ensuite, on en fait un chocolat.
Je vous propose de déguster
Allez-y. Au
fur et à mesure et vous les expliquerez. Donc, celle-là, c'est le chocolat au basilic.
Exactement.
D'abord, il est tellement beau.
Merci. Tellement on beau. Le décore avec des petits grains de sucre vert.
Ah, c'est
l'idée, ça. Souvent, c'est que ce que j'essaie de faire, c'est de faire une décoration qui peut nous donner un indice sur ce qu'il y a à l'intérieur. J'avoue que des fois, c'est pas si évident, mais entre le vert de la feuille de basilic et le vert du petit sucre sur le dessus, ben. Je me dis que peut-être les gens vont faire un lien quand ils ouvriront leur boîte.
Quel délice.
Merci.
Mais le basilic, il marche très bien avec le chocolat.
Oui, ça va très bien.
Je n'aurais jamais cru que cela était possible.
On en a un autre ici qui est un raisin qui coiffe le chocolat, qui est au vieux rhum et raisin. Alors,
ça,
un classique.
Ça, c'est un classique, mais...
Mais moi, je l'adore.
Combien délicieux.
Voilà. Alors, c'est des raisins dorés. Qu'on a fait bouillir dans un sirop et puis auquel on a rajouté du vieux rhum et qu'on a broyé, qu'on va rajouter à la ganache dans laquelle on a aussi ajouté du vieux rhum.
C'est la perfection.
Bien, la texture est très agréable.
La texture est...
Parce qu'il y a les petits
onctueux.
Morceaux de, de raisin à l'intérieur. Il y a le goût du rhum, mais qui n'est pas trop puissant non plus.
Non, tout est en équilibre.
Et puis celui-là, on le fait que l'hiver. On a certains, en tout, ce qu'on appelle les bonbons de chocolat dont on parle en ce moment, on en a une trentaine de sortes différentes, sauf qu'il y a quelques sortes qu'on garde à l'année, puis d'autres qui a soit l'été ou soit que l'hiver. Alors, le vieux rhum raisin, c'est un chocolat qu'on a seulement l'hiver, alors que l'été, on va le remplacer par un chocolat au pastis.
Ah! Pour la fraîcheur.
Pour la fraîcheur.
J'ai hâte de goûter un autre chocolat.
Alors, on en a un autre ici qui est notre chocolat aux figues et balsamiques qu'on appelle. Alors, dans celui-là, vous allez retrouver la ganache avec une réduction de vinaigre balsamique. Donc, on ne retrouve pas le goût vinaigré qui pourrait... étouffé un peu, là, qu'on veut pas, comme dans la salade.
Et décoré délicatement avec du sucre rouge.
Exact. Moi, je trouvais que le sucre rouge, il rappelait l'intérieur de la figue. Quand on ouvre une figue fraîche.
Mais quel délice!
Alors ici, vous avez au milieu une purée de figues avec un peu de vinaigre balsamique aussi, entre 2 étages de ganache.
Une perfection, Chloé.
Merci.
Un vrai délice.
Merci.
C'est incroyable. Ce chocolat est incroyable.
Ce chocolat-ci, on l'appelle Gianduja. C'est une spécialité italienne. Sur ce chocolat, il y a 3 différentes couleurs. Alors,
c'est vrai.
C'est qu'on a mélangé la pâte de noisette avec du chocolat blanc, avec du chocolat au lait et avec du chocolat noir. Et puis qu'on les a superposés.
Il est parfumé, il est onctueux.
La texture du chocolat
quelle
avec...
Quelle qualité de chocolat.
Merci.
Un pur bonheur.
Et voilà. On en a un ici au poivre de Sichuan. Le poivre de Sichuan, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas piquant. C'est un poivre. En fait, c'est une baie qui amène plutôt une certaine fraîcheur sur les côtés de la langue, un petit goût légèrement anisé et légèrement citronné. C'est extrêmement subtil.
Chez vous, tout est en douceur.
En effet.
Et c'est l'expérience, mais c'est une perfection.
Ici, notre chocolat le plus populaire, c'est notre ganache à la fleur de sel. C'est pas un caramel à la fleur de sel, mais c'est une ganache qui est faite à base de chocolat au lait. Et un des chocolats au lait de Valrhona, parce qu'ils en ont plusieurs qui ont différents goûts, mais un de ceux-là s'appelle Tanariva. Puis le chocolat Tanariva, il a un goût de caramel. C'est pas parce qu'on y a rajouté du caramel, ni à la compagnie, ni chez nous, mais comment il est fait, ça fait que c'est les notes de caramel qui en ressortent. Alors, c'est suite à ça que j'ai décidé de mettre un peu de fleur de sel dans la ganache, parce que ça me rappelait le goût du caramel qu'on aime souvent salé. Alors, c'est une ganache chocolat au lait fleur de sel qui est enrobée de chocolat noir.
Quelle merveille! Merci. Tous vos chocolats, Chloé, sont un rêve. Il faut absolument que nos auditeurs aillent vous voir. S'il vous plaît, donnez-nous votre adresse, téléphone et site web.
Avec plaisir. Alors, on est en fait la boutique. On n'a qu'une boutique. Et c'est le seul endroit où on vend nos chocolats parce qu'on aime bien, voir nos clients puis on aime bien vous montrer nos produits. Alors, on est sur la rue du Lutte, au 546 rue du Lutte Est à Montréal. Donc, on est tout près de la rue Saint-Hubert. Notre numéro de téléphone est le 514-849-5550 et on est ouvert du mardi au dimanche. Et vous pouvez avoir plus de détails sur notre site web au www.leschocolatdechloé.com.
Un site web très amusant.
Merci.
Très sympathique. Ça vaut la peine vraiment de le voir.
Merci beaucoup.
Nous avons placé tous vos liens sur notre blog, dont nous donnerons l'adresse à la fin de l'émission. Merci d'être passé à Samedi Gourmet, Chloé, Gervais, Fredette.
Merci Roger de m'avoir invité, merci beaucoup.
Et n'oubliez pas, chers auditeurs, les chocolats de Chloé, il faut absolument aller leur faire une visite.
Merci, au plaisir.
Merci auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous. Vous trouverez les liens de nos invités sur notre blog dont l'adresse est www.vsgourmand.wordpress.com. Je vous attends samedi prochain à midi pour une autre joyeuse émission sur la gourmandise. Je suis votre animateur Roger Huet. À la technique était Guy Lafrance. Bonne semaine.